Chapitre 9. J'ai rêvé de ma mère. Debout devant le plan de travail d'une petite cuisine dans les tons marron et or, son visage aux traits tirés dissimulé derrière un rideau de cheveux bruns, elle fredonnait tout bas la comptine. Sucre, épices et autres douceurs, voilà ce qu'il faut aux petites filles. Dans mon rêve, j'étais une enfant de 3 ans coincée dans une chaise haute de bébé. J'avais le dos plaqué contre le dossier en vinyle poisseux et une sangle en plastique blanc éclaboussée d'œufs séchés et de bouillie d'avoine floconneuse me rentrait dans le ventre à m'en faire mal. Je voulais descendre. Je geignais, je pleurnichais, je m'agitais, je me tortillais. Si seulement j'arrivais à mettre mes petites mains agiles sur les attaches, je pourrais m'enfuir. Mais j'avais déjà fait ça une fois. Alors elle avait changé les sangles, et maintenant les attaches se trouvaient dans le dos du siège poisseux. J'étais piégée, mal à l'aise, et même si j'avais faim, je voulais m'en aller. Ma mère avait une ampoule électrique à la main. Elle l'avait prise sur la lampe blanche ébréchée dans le salon. Elle l'avait dévissée en chantonnant à voix basse. « Sucre, épices et autres douceurs, voilà ce qu'il faut aux petites filles. » Ma mère posait l'ampoule dans un bol en plastique bleu. Elle prenait une grande cuillère métallique et frappait un grand coup. Tintement léger. Mon moi adulte, mon vrai moi et non l'enfant de 3 ans pris au piège, comprenait que c'était le bruit de l'ampoule qui se brisait. L'enfant de 3 ans pris au piège regardait juste avec de grands yeux bleus sa mère qui broyait l'ampoule, sans cesser de fredonner, fredonner. Ensuite, elle levait les yeux vers moi en souriant. À côté du bol se trouvait un pot de beurre de cacahuètes. Ma mère en dévissait le couvercle, elle en prenait une grosse cuillerée. Elle mettait le beurre de cacahuètes dans le bol en plastique bleu avec l'ampoule brisée et elle mélangeait. Sucre, épices et autres douceurs, voilà ce qu'il faut aux petites filles. Elle s'approchait de la chaise haute dont le plateau blanc me rentrait dans le ventre. Larguait le bol sur un reste d'œuf refroidi qui s'écrasait dans un bruit de succion. Ma mère s'était pomponnée. Elle avait du brillant à lèvres, du fard à joues. Ses cheveux bruns étaient fraîchement lavés. Elle avait pris le temps de les brosser jusqu'à ce que, long et brillant, il lui tombe jusqu'au milieu du dos en une chatoyante cascade de soie acajou. J'avais envie de toucher ses cheveux, de les tenir dans mon poing, de sentir cette version plus douce, plus lumineuse de ma mère. Ma mère était jolie. Cela me fascinait et me terrifiait tout à la fois. Sucre. « Épices et autres douceurs », chantonnait ma mère. « Oh, mes Charlie, ma belle, les petites filles douces arrivent toujours les dernières. Tu ne veux pas être la dernière, n'est-ce pas? Le monde a besoin de petites filles courageuses, de petites filles qui ont du cran. Sucre, épices et verre pilé, voilà ce qu'il faut aux petites filles. » Elle souleva la première cuillerée de beurre de cacahuète. « L'avion arrive. Allez, Charlie. Sois gentille avec maman. On ouvre la bouche. L'avion arrive dans le hangar. Vroom, vroom, vroom. » Plus tard, je vomissais du sang. Nous nous rendions aux urgences. Les infirmières m'admettaient en toute hâte, s'affairaient autour de moi. On me palpait, on m'auscultait. Le médecin braquait une lumière sur mes yeux. Je me tenais le ventre en gémissant. Mais je ne pleurais pas. Les gentilles petites filles sont courageuses. Les gentilles petites filles ont du cran. Douleur. Des crampes déchirantes. Une diarrhée a tombé dans les pommes. Mon visage couvert de sueur. Mais promis, juré, craché, pas de larmes sur mes joues. « Je ne sais plus quoi faire », expliquait ma jolie et lumineuse maman au médecin. Je tourne le dos 1 minute et voilà que je la retrouve à manger une ampoule. Enfin quoi, docteur? Où est-ce qu'on a vu une enfant manger une ampoule? Les gentilles petites filles sont courageuses. Les gentilles petites filles ont du cran. C'est tellement dur, parfois, d'être une mère célibataire. Je venais d'aller dans la cuisine, vous voyez, pour lui préparer un sandwich au beurre de cacahuète, son préféré. Et puis, je m'occupais du linge, j'essayais de ramasser tous les jouets dans le salon, de nettoyer la salle de bain. Alors oui, une ampoule avait grillé et j'en avais sorti une autre pour la remplacer. Mais je n'ai pas pensé un instant, pas imaginé une seconde. Oh, je m'en veux, je m'en veux. Ça m'ennuie de pleurer. C'est juste que je n'ai pas dormi depuis si longtemps. Vous n'imaginez pas comme elle est turbulente et impulsive et maintenant ça, alors qu'on n'a pas de mutuelle et que... Je suis désolée. Est-ce que je pourrais m'asseoir une minute? Gentilles petites filles sont courageuses. Les gentilles petites filles ont du cran. Le médecin tapotait l'épaule de ma mère. Il lui disait que tout allait s'arranger. Elle faisait de son mieux, il comprenait parfaitement. Je roulais sur le côté en me tenant l'estomac et vomissais encore du sang. Je voulais parler. Je voulais retrouver ma voix, mais ma langue était gonflée, mes joues douloureuses et ma gorge en feu. Une autre infirmière était à côté de moi. Elle m'essuyait la bouche avec un linge frais, caressait mon front de ses doigts légers. Je la regardais. Yeux bruns, cheveux bruns, visage doux. Parler. Je voulais. J'essayais d'ouvrir la bouche. Je sentais que c'était urgent, qu'il le fallait à tout prix. Parler. Parler. Pas de l'ampoule, pas du beurre de cacahuète. C'était autre chose que je devais dire. Si j'arrivais seulement à dire « Les gentilles petites filles sont courageuses. Les gentilles petites filles ont du cran. » J'ouvrais la bouche. L'infirmière se détournait. À l'autre bout de la pièce, comme devinant mon intention, ma mère regardait par-dessus l'épaule du médecin, croisait mon regard et souriait d'un air de triomphe. Je me suis réveillée dans ma chambre de Cambridge, assombrie par les stores. Le cœur battant, les cheveux mouillés, mon débardeur gris plaqué sur ma peau trempée de sueur. J'avais encore les mots sur le bout de la langue. Ces mots que je n'avais jamais pu dire à l'époque, ces mots qu'il m'avait fallu des années pour lentement mais sûrement me rappeler. Le bébé pleure. Voilà ce que j'aurais voulu dire. Voilà ce que j'éprouvais, un besoin désespéré de le dire au médecin, à l'infirmière, à n'importe qui. Mais théoriquement, je n'avais aucun souvenir d'un quelconque bébé. Théoriquement, ma mère n'avait que moi. Le bébé pleure. Au bout du couloir, voilà les mots qui m'ont alors traversé l'esprit. Et l'espace d'une seconde, j'ai presque eu le goût d'un nom dans la bouche. Je l'ai senti comme un parfum dans l'air, l'ombre d'une ombre de souvenirs. Une petite fille, au bout du couloir, qui pleurait. Je serrai les paupières, enfoncé mes yeux dans leur orbite avec la paume de mes mains comme si ça pouvait m'aider à me souvenir, à oublier. Je n'ai jamais su. Après toutes ces années, je ne savais toujours pas. Ma mère m'avait maltraitée, ça je le savais. Elle n'allait pas bien. Elle était si malade en fait qu'après le dernier drame, elle avait été définitivement internée. Dans un hôpital psychiatrique, j'imagine, puisque c'est là que vont généralement les malades et qu'un emprisonnement aurait nécessité un procès dont je me serais forcément souvenu. Ma mère était partie. Voilà ce que tante Nancy m'avait dit le premier jour à l'hôpital et je n'avais plus jamais abordé le sujet. Prononcer le nom de ma mère, c'était risquer d'invoquer le démon. Alors je n'ai jamais rien demandé et tante Nancy ne m'a jamais rien dit. Il s'était passé quelque chose de grave, pire que d'habitude, et je savais ce que c'était. Quelque chose au fond de moi comprenait que je savais tout, qu'en réalité je me souvenais de tout, mais que je ne voulais pas me souvenir de mes souvenirs. Alors je les oubliais. Par un acte de volonté consciente ou inconsciente, je prenais le passé, je l'enfermais dans une boîte, et je le mettais de côté pour ne plus jamais le voir. Peut-être pas la meilleure des stratégies face à l'épreuve, et pas sans conséquences. Manifestement, quand on condamne certaines zones de son esprit, on ne maîtrise pas tout ce qui disparaît. Aujourd'hui encore, ma mémoire est au mieux aléatoire. Le temps m'échappe. Des jours, des semaines, des conversations entières avec mes meilleurs amis, ce dernier cours essentiel à la veille de l'examen final. Jackie et Randy disaient pour me taquiner que j'aurais oublié ma tête si elle n'avait pas été attachée à mes épaules. Je riais en cœur, mais souvent avec embarras. Vraiment, Jackie m'avait appelé la veille au soir, nous avions parlé pendant 2 heures et j'avais tout oublié. Randy m'avait tout dit de son premier rendez-vous avec le bourreau des cœurs Tom Eastman, et je ne parvenais pas à me souvenir du moindre détail. Petits accros dans le système d'exploitation, me disais-je. Clairement, Vu l'énergie que j'avais dépensée pour effacer totalement 8 années de ma conscience, quelques bugs étaient inévitables. D'ailleurs, quelle que soit la gravité de mes plantages, oublis, réels étourderies, ils étaient encore préférables aux rares moments où le souvenir commençait à me revenir. Ces épisodes se produisaient le plus souvent lorsque je traversais un pic d'anxiété. Alors le passé s'infiltrait dans mes rêves, fragments d'une vieille bobine de film. Il était une fois une mère folle et toute maigre qui vivait dans une maisonnette toute sale avec sa fille unique et toute maigre. Et la mère obligeait sa fille à manger du verre brisé, lui refermait les tiroirs de cuisine sur les doigts et la poussait du haut des escaliers raides parce que les petites filles doivent être courageuses et avoir du cran. Jusqu'au jour où la petite fille devint si courageuse, où elle eut tellement de cran qu'elle gagna la guerre. Ça, j'en avais l'intime conviction. Ma mère avait fait quelque chose, mais j'avais gagné la guerre. Et je ne posais plus de questions sur ma mère, parce que je savais au fond de moi-même que la réponse risquait de m'apprendre tout ce que je n'étais pas encore prête à savoir. Le bébé pleure. Une fille. Un ours en peluche. Froufrou blanc, petit pois rose. Sucre, épices et autres douceurs. Ne te souviens pas, chasse ça, repousse-le. Rien de bon ne peut venir du passé, surtout d'un passé comme le tien. Et puis, au point où tu en es, ça servirait à quoi ? Une femme traquée n'a pas besoin de réponse sur son passé. Une femme traquée a besoin de savoir se battre. Je me suis levée d'un coup, j'ai regardé le réveil dans la pénombre de ma chambre et calculé le temps qui me restait avant le 21 janvier, 20h. L'heure H. Celle où mon assassin viendrait enfin me rendre visite. 78 heures à attendre. J'ai enfilé ma tenue de sport et attrapé la laisse de tulipe pour aller courir. Mon père vit à Boston. Ma seule et unique dispute avec Tante Nancy a porté sur lui, alors là aussi c'est une question que j'aborde rarement et sur laquelle je m'attarde encore moins. Mais oui, j'ai un père. Riche. Qui, aux dernières nouvelles, en est à sa 5e ou 6e épouse. J'ai aussi des frères et sœurs. Enfin, des demi-frères et sœurs, j'imagine. Je n'ai jamais rencontré aucun d'eux et je ne me fais aucune illusion. Mon père ne joue pas davantage son rôle de parent avec eux qu'avec moi. La paternité se limite pour lui à un don de sperme. On rencontre une jolie jeune fille, on la met en cloque. Si elle est assez jeune, assez jolie, assez refaite, on peut même aller jusqu'à l'épouser. Jusqu'au jour, naturellement, où une nouvelle mignonne se présente. Auquel cas, il n'est qu'un homme, c'est plus fort que lui. Je crois qu'il a rencontré ma mère lors de vacances dans le somptueux Mount Washington Hotel de Bretton Woods. Elle avait 17 ans et était employée comme gouvernante. Il en avait 30 et voulait s'amuser. D'après Tante Nancy, ma mère lui a dit qu'elle était enceinte. Il ne l'a pas épousée, mais il a envoyé de l'argent. Donneur de sperme, chéquier ambulant. Vous voyez, un type super. Il n'a jamais cherché à savoir ce que je devenais. Du moins, à ce qu'on m'a dit. Il a d'emblée perdu le contact avec ma mère, ce qui me surprend un peu. Non pas qu'il m'ait laissé partir, mais que ma mère l'ait laissé partir, lui. Peut-être qu'elle a résisté, mais elle n'était qu'une souris des montagnes et lui un financier des villes qui avait toujours nagé dans l'argent, qui en gagnait encore davantage et dont l'inébranlable système de valeurs s'appuyait sur la conscience de sa propre importance. Elle n'a sans doute jamais fait le poids. Je crois que c'est lui que les policiers de l'État de New York ont contacté en premier après le drame. Ma mère avait laissé son nom comme personne à joindre en cas d'urgence, mais sans numéro de téléphone. Néanmoins, comme les policiers ont des moyens que ne possédait pas une jeune malade mentale de 25 ans, ils l'ont retrouvé en quelques jours. Il était malheureusement à l'étranger. Paris, Londres, Amsterdam, je ne sais plus. Il les a renvoyés vers Tante Nancy qui a eu la bonté d'accepter la responsabilité d'une nièce qu'elle n'avait jamais vue. Cela dit, elle tenait une maison d'hôte et l'appel l'avait prise au dépourvu, alors il a fallu encore quelques jours pour qu'elle quitte son coin perdu du New Hampshire afin de rejoindre ce coin encore plus perdu du nord de l'État de New York. Je n'avais qu'un vague souvenir de ces jours-là. Je me rappelais m'être éveillée à l'hôpital, m'être étonnée d'être encore en vie et ensuite en avoir été profondément, très profondément déçue. Une assistante sociale était assise à mon chevet. Ses cheveux noirs, coupés en un carré court, faisaient ressortir ses traits sévères, anguleux. Elle n'avait pas l'air douce, ni maternelle. Elle avait un regard dur et parlait comme un robot. Les médecins m'avaient retiré mon appendice, peut-être d'autre chose, Manifestement, absorber du verre et de la morora à petite dose pendant des années ne vaut rien à divers organes. Mais j'étais en bonne voie de guérison, m'a-t-elle affirmé. J'allais très bien m'en remettre. Et là aussi, j'ai été profondément, très profondément déçue. Je ne lui ai jamais adressé la parole, ni aux infirmières, ni aux médecins. Il m'avait trahi. Il m'avait obligée à vivre. Je leur en voulais. Enfin, ma tante est arrivée. Elle m'a pris la main, et aussitôt j'ai cessé d'être l'enfant de ma mère pour devenir la nièce de ma tante. La meilleure chose qui m'était encore jamais arrivée. Tante Nancy était de 6 ans l'aînée de ma mère. Elle avait des cheveux courts, crépus, gris-argentés. Il semblerait que le cheveu prématurément gris soit de famille, comme les yeux bleus et la mâchoire marquée. Mais ce gris allait bien à ma tante. Il faisait ressortir ses yeux bleus acier, ses pommettes hautes. Ma tante s'en fichait éperdument. Autant ma mère recherchait obsessionnellement l'attention des hommes, autant ma tante cherchait obsessionnellement à les tenir à distance. Quand leurs parents avaient trouvé la mort dans un accident de voiture, dans le New Hampshire, on voit beaucoup de panneaux qui recommandent de ralentir à cause de la présence d'orignaux. C'est un conseil avisé. Ma tante avait assuré l'éducation de sa sœur. Déjà à l'époque, ma mère était indomptable, et déjà à l'époque, ma tante était la plus responsable des deux. Inutile de préciser que leur relation était tendue avant même que ma mère ne se fasse engrosser par un riche financier de Boston. Elles vécurent, chacune de son côté, jusqu'au jour où le téléphone sonna et où ma tante apprit qu'il s'était produit un drame, qu'elle avait une nièce et que sa vie allait encore basculer du jour au lendemain. Comme n'importe quel enfant, je ne me suis jamais rendu compte à quel point ma tante était formidable jusqu'à la nuit où mon téléphone a sonné pour m'annoncer un drame. Une tragédie. Un deuil inattendu. Alors je me suis tournée vers ma tante pour qu'elle me conseille, parce que, à choisir entre être la fille de ma mère ou la nièce de ma tante, je choisirais la nièce dans 100% des cas. Ma tante est courageuse, ma tante a du cran. Pas la peine de manger du verre pilé. Aller donc gérer une maison d'hôte pratiquement sans aide ni assurance santé dans les montagnes du New Hampshire, où en janvier les températures matinales peuvent chuter jusqu'à -30, alors que la plupart de vos clients de Boston auront oublié d'emporter bonnet, écharpe et gants, et estimeront que c'est de votre faute. Je pensais à ma tante en ralentissant avec Tulip à l'approche d'un carrefour, puis en attendant que le feu passe au vert pour franchir le passage piéton en courant. Je me disais qu'elle méritait mieux qu'un coup de fil qui allait une nouvelle fois bouleverser sa vie le 21 janvier. Le cœur battant d'avoir couru mes 10 kilomètres, le visage ruisselant de sueur, mon chien trottinant à mes côtés, mon pistolet à portée de main dans mon sac banane, j'étais heureuse que ma tante ne puisse pas me voir en cet instant. Parce qu'un simple regard sur moi lui aurait suffi pour comprendre que même si j'étais en train de gagner la bataille, j'avais perdu la guerre. J'étais devenue le portrait craché de ma mère, jusqu'aux yeux caves, aux joues creuses, au visage sévère. Il ne me restait plus rien des montagnes, il ne me restait plus rien de ma tante. À vivre dans l'isolement, à combattre la paranoïa dans une grande ville, j'étais devenue tout ce que j'aurais absolument voulu éviter. À présent, j'étais la fille de ma mère. Sauf que je ne mangeais plus de verre pilé. J'étais armée d'un 22 semi-automatique, et ce soir, peu après 19 heures, j'allais encore démontrer que je savais m'en servir.